France Inter, il est 13h. C'est le journal avec Bruno Duvic, bonjour.
Bonjour, soyez les bienvenus au sommaire aujourd'hui.
Qu'est-ce que c'est que le bonheur ? C'est le moment à partir duquel vous vivez ce que vous espériez vivre. J'ai été intensément heureux.
La mort du grand médecin généticien Axel Kahn, lui qui présidait la Ligue contre le cancer, est emporté par la maladie à 76 ans. Nous lui rendrons longuement hommage et à 13h30, l'antenne vous est ouverte au 01 45 24 7000 et sur l'appli France Inter rubrique Réagir. Nos invités, Alain Fischer, professeur au Collège de France, aujourd'hui à la tête du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale, et le président par intérim de la Ligue contre le cancer, qui sera donc lui aussi avec nous. Axel Kahn s'en va le jour où paraît une étude encourageante. On survit de plus en plus au cancer. Véronique Julia nous donne les détails. Dans l'actualité encore, les deux stratégies face au variant Delta, ouvrir quand même et se faire vacciner, c'est le choix de Boris Johnson en Grande-Bretagne. Préparer de nouvelles mesures de restriction, c'est la direction prise en Espagne. Pour une primaire de la droite et du centre, tribune signée Laurent Wauquiez, Valérie Pécresse, Bruno Retailleau. Comment réagit-on chez Xavier Bertrand ? Le bac, jour des résultats aujourd'hui, nous irons au lycée Voltaire à Paris. Syndicats et patronats à l'Élysée. Bonjour Hélène Filly.
Bonjour.
La réforme des retraites est dans les esprits.
Oui, il n'y avait pas le mot retraite à l'ordre du jour, mais c'est bien le sujet qui est sur toutes les lèvres. Emmanuel Macron a-t-il dévoilé ses intentions ? La réunion est toujours en cours. L'atmosphère, en tout cas, est aussi chargée que le ciel ce midi à l'Élysée.
Tout à l'heure pour les détails. Elle est qualifiée pour les Jeux Olympiques, mais la Fédération d'athlétisme ne veut pas la sélectionner parce qu'elle a accouché en février. Nous vous raconterons l'histoire de la spécialiste de saut à la perche, Ninon Guillon-Romarin. Le Festival de Cannes, ouverture ce soir et chaque jour. Quel plaisir ! Laurent Delmas, voix du cinéma sur France Inter, nous proposera sa météo cannoise à propos du film d'ouverture, la comédie musicale de Léos Carax, C'est Grand Soleil. Et la musique dans C'est une chanson, Benabar, au micro de Frédéric Pommier. Le 13-14, vous avez le programme, c'est parti.
France Inter. Le 13-14.
Ce fut un des moments marquants de l'année sur France Inter. Le 17 mai dernier, Axel Kahn était l'invité de Léa Salamé. Lui, le président de la Ligue contre le cancer, annonçait être malade à son tour et il se savait perdu. Et des quelques semaines qui lui restaient à vivre, il disait ceci de ce dernier combat.
C'est un combat honorable. Mais puisqu'il me reste, je ne sais pas combien de temps, mais un peu de temps, je vais essayer d'optimiser ce temps qui me reste. Je me demandais quelle serait mon attitude en m'approchant de la mort ? Je ne le fais pas en chantant, j'aime la vie. Mais je ne le fais pas non plus dans la terreur. J'ai souvent dit que personne n'est autre chose que ce qu'il fait. Imaginons qu'il me reste 3-4 semaines. Mais alors, le choix de ce que je fais, la manière dont je le fais, sont plus importants que jamais. Les 4 jours qui viennent de se passer se sont passés dans ma campagne, la campagne familiale, avec ma jument à qui j'ai dit au revoir, qui m'a embrassé sur mon nez, et moi je l'ai embrassé sur son nez, qui vibrait sous mes baisers, c'était bien, voyez-vous. J'étais avec mes enfants, j'ai essayé de tout leur expliquer. J'aurais expliqué la scie mécanique, comment fendre le bois, les clôtures électriques, les batteries, tout ce que l'on doit réellement savoir, je leur ai offert en hôpital à chacun. Mais qu'est-ce que c'est que le bonheur, Léa Salamé ? C'est le moment à partir duquel vous vivez ce que vous espériez vivre. J'ai été intensément heureux et la communion entre moi et mes enfants, qui savaient que c'était une transmission, c'était magnifique. Entre moi et ma compagne, avec qui je vis depuis si longtemps. C'était magnifique.
Axel Kahn avait 76 ans. Le cancer l'a emporté très vite après une vie particulièrement bien remplie, celle d'un médecin généticien, spécialité devenue incontournable au fil des années. Médecin qui aimait, Delphine Evenou, intervenir dans le débat public.
Oui, la vie extrêmement riche d'Axel Kahn, c'est d'abord la médecine. Sa renommée est internationale. Comme généticien, 600 articles publiés avec ses équipes, mais aussi directeur de recherche à l'INSERM, directeur de l'Institut Cochin, président de l'Université Paris-Descartes, membre du Comité National d'Éthique, médecin tout simplement à l'hôpital Beaujon. Le docteur, donc le citoyen aussi, engagement politique au sein du Parti communiste puis socialiste, engagement associatif, il devient en 2019 le président emblématique et très actif de la Ligue contre le cancer. Passionné d'éthique et de philosophie, Axel Kahn prend position sans jamais mâcher ses mots, notamment quand débute la pandémie de Covid-19. Il alerte sur les retards de diagnostic du cancer. Il s'insurge contre les anti-vaccins.
Médecin, citoyen, humain aussi, Delphine, c'est ce qu'on retient de ces derniers mois.
Sois humain et raisonnable, lui avait dit son père avant son suicide, une phrase restée gravée, un intérêt pour l'autre cultivé lors de longs périples à travers la France où il se nourrit des paysages et des rencontres. Et c'est cette humanité qu'il s'est attelé à transmettre et à célébrer ces dernières semaines. Un long texte d'adieu, Le bout du chemin, publié sur Facebook, et puis son blog où il déroule la chronique apaisée de la fin d'un itinéraire de vie, des pensées livrées comme des leçons de vie, le combat, la dignité. Sans amertume, trop fatigué par la maladie et la douleur, il s'est arrêté de publier le 22 juin. Vivre quelques instants de plus, cela en vaut la peine, écrivait l'essayiste il y a 2 semaines.
Le Premier ministre Jean Castex salue une vie qui a valeur d'exemple. Autre hommage, celui de René Friedman, le gynécologue des hôpitaux de Paris, professeur des universités françaises, celui qui a permis la naissance du premier bébé éprouvette.
Axel Kahn, c'était un grand. C'était une lumière, je l'ai connu il y a 60 ans, nous étions dans la même année de médecine, donc nous étions très proches, et puis ensuite on militait de la même façon pour l'amélioration de la société. Donc c'est quelqu'un qui était un scientifique, qui était engagé dans la société, qui travaillait pas que dans son coin. Vous avez connu sa façon d'être didactique, de faire comprendre surtout des choses difficiles comme la génétique, comme la réflexion autour de l'embryon. Donc c'est vraiment pour moi une lumière qui s'éteint.
L'hommage de René Friedman, d'autres hommages à venir à 13h30. Nous serons avec Alain Fischer, le président du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale, et avec le président par intérim de la Ligue contre le cancer, Daniel Nizri. Et avec vous, l'antenne vous est ouverte si vous souhaitez rendre hommage à Axel Kahn. 01 45 24 7000 et France Inter, l'appli avec la rubrique Réagir. Là où il est parti, le médecin emporte avec lui un constat très beau et important. Le travail des docteurs, des scientifiques et de tous ceux qui accompagnent les malades du cancer, ce travail produit de beaux et puissants résultats. Bonjour Véronique Julien.
Bonjour.
Il se trouve qu'aujourd'hui même est publiée une étude de l'Institut National du Cancer. 730 000 cas diagnostiqués entre 1989 et 2015 passés à l'étude. Et le constat, Véronique, est clair et net. On survit de plus en plus à cette maladie. Pour la plupart des cancers, la survie à 5 ans et plus s'améliore nettement.
Oui, un meilleur dépistage, un diagnostic plus fin et des innovations thérapeutiques nombreuses. C'est tout ça qui favorise l'embellie. Globalement, les cancers qui se soignaient plutôt bien se soignent encore mieux. C'est le cas des cancers de la prostate, du sein, de la thyroïde, du mélanome, avec des survies à 5 ans qui avoisinent ou qui dépassent maintenant les 90%. On atteint même 96% de survie pour la thyroïde. Les cancers qui avaient un pronostic moyen, on parle de pronostic intermédiaire, se traite mieux également. Le sarcome, le cancer du rein, de l'ovaire et du côlon font quasiment partie désormais de ce qu'on appelle les bons pronostics. Enfin, plus remarquable encore, les cancers du sang, ce qu'on appelle les hémopathies malignes. Les progrès là sont considérables. 10 d'entre elles ont désormais des survies à 5 ans qui dépassent les 80%. Mention spéciale pour la leucémie myéloïde chronique, 43% de survie à 5 ans. Dans les années 90, on est à plus de 85%. Aujourd'hui.
Mais il reste, Véronique Julia, des montagnes difficiles à gravir.
Et oui, ce sont les cancers dits de mauvais pronostic, cancer du poumon, du cerveau, du pancréas, du foie, de l'estomac, de l'œsophage. La survie à 5 ans était mauvaise il y a 25 ans, inférieure à 33%. Elle le reste, elle ne dépasse toujours pas, par exemple, les 7% pour certains sous-types de cancer, le cancer pulmonaire à petites cellules et le glioblastome, c'est une tumeur du cerveau. Alors, pas toujours, mais souvent, ce sont des cancers associés à l'alcool et au tabac. Des cancers évitables donc pour une partie d'entre eux. Les femmes souvent mieux dépistées et qui ont moins de consommation à risque ont une survie pour ces cancers un peu meilleure que celle des hommes. Dans les cancers du sang, c'est la leucémie aiguë myéloïde qui fait de la résistance. On n'atteint toujours pas aujourd'hui les 30% de survie à 5 ans.
À propos du Covid, à présent, l'un des mots-clés des semaines à venir, ce sera Delta, ce variant de plus en plus préoccupant. Record de contamination depuis le début de la pandémie en Afrique, en particulier en Tunisie, en Afrique du Sud, au Zimbabwe, en Asie. Le Bangladesh prolonge son confinement. Et en Europe, deux attitudes, presque deux philosophies se dessinent. malgré la progression du variant Delta. Il reconnaît qu'on pourrait en être à 50 000 cas par jour d'ici à deux semaines. Le Premier ministre britannique Boris Johnson compte toujours lever les dernières mesures de restriction le 19 juillet. L'attitude à avoir, selon lui, ce n'est pas de se calfeutrer, c'est de vivre et de se vacciner.
Nous devons être honnêtes avec nous-mêmes. Si nous ne pouvons pas rouvrir notre société dans les prochaines semaines, quand nous serons aidés par l'arrivée de l'été et par les vacances scolaires, alors nous devons nous poser la question, quand pourrons-nous revenir à la normale ? À ceux qui disent que nous devons retarder encore, les alternatives seraient de rouvrir en hiver, quand le virus a un avantage sur nous, ou de ne pas du tout rouvrir cette année. Et il n'y a pas de moment plus approprié pour rendre hommage encore une fois à nos services de santé et à tous les soignants. La meilleure chose à faire pour les récompenser maintenant de leur dévouement et de leur courage, c'est de nous protéger et de protéger les autres en se faisant vacciner dès que vient notre tour.
Le Premier ministre britannique Boris Johnson, traduction et voix off Richard Place, correspondant de France Inter à Londres. La Norvège, elle, repousse la levée totale des mesures de restriction. Et l'Espagne, où le variant flambe également chez les plus jeunes, en particulier taux d'incidence 600, l'Espagne se dirige, contrairement à la Grande-Bretagne, vers le rétablissement de mesures de restriction. À Madrid, Pierre Chaperon.
En Espagne, on parle déjà d'une cinquième vague. En se présentant pour son point quotidien devant la presse, le chef des urgences, Fernando Simón, avait la tête des mauvais jours.
Il est certain qu'aujourd'hui, les chiffres ne sont pas bons du tout. Tout le monde a vu des regroupements massifs de personnes à l'intérieur comme à l'extérieur, sans aucun respect des distances de sécurité et sans utiliser de masques. Tout cela fait que probablement le taux d'incidence a augmenté.
Ce sont surtout les moins de 30 ans qui posent problème. Une tranche d'âge où le taux d'incidence est proche des 600 cas pour 100 000 habitants et qui n'est pas encore majoritairement concerné par la campagne de vaccination. Si bien que les régions commencent à revoir leurs copies. Des restrictions comme en Cantabrie ou en Navarre où l'on impose la fermeture des bars et boîtes de nuit dès 1h du matin. D'autres régions comme les très touristiques, Andalousie et Catalogne réfléchissent à durcir les règles. Fermeture des établissements nocturnes, retour de l'obligation de porter le masque en extérieur. Toutes les options sont sur la table. Le temps presse alors que la saison touristique vient de débuter en Espagne. Madrid, Pierre Chaperon, RFI pour France Inter.
En France, Delta représente 30% des nouveaux cas selon les derniers chiffres. Et puis le Conseil d'État a saisi par l'association La Quadrature du Net qui redoutait un mauvais usage des données personnelles. Le Conseil d'État refuse de suspendre le pass sanitaire. Dans le journal Le Monde, un collectif de médecins et scientifiques appelle à lever les brevets sur les vaccins pour une réponse mondiale coordonnée à l'épidémie. Près de la moitié, par exemple, des habitants de l'Union européenne ont reçu une dose de vaccin, mais seulement 2% des Africains. On approche des 4 millions de morts du Covid en plus d'un an et demi. Et y a-t-il un monde après le Covid et avant la présidentielle? Y a-t-il encore de la place pour des réformes importantes en France dans les mois à venir? Le président de la République reçoit les représentants du patronat et des salariés aujourd'hui à l'Élysée. Hélène Filly, on vous a déjà entendu en titre. Dans les esprits, il y a bel et bien cette question. Est-ce que la retraite à 64 ans peut-elle, va-t-elle être mise à l'agenda avant la présidentielle?
Et oui, c'est bien la question qui est sur toutes les lèvres. La réunion a commencé à 11h et Emmanuel Macron est toujours en train de sonder les partenaires sociaux. Ce qu'on peut dire, c'est que personne n'en veut de cette réforme maintenant. Pas tous pour les mêmes raisons. Les syndicats parce que la priorité doit être l'emploi, la gestion de la crise économique. Pas un sujet aussi inflammable. Qui plus est, pris du côté financier. Le recul de l'âge de départ à 64 ans, c'est injuste pour ceux qui ont commencé à travailler tôt, estime la CFDT, la CFE-CGT, la CGC. Et ce n'est pas utile, juste-t-il, face à une trajectoire financière que le Conseil d'orientation des retraites estime maîtrisée. Le patronat plus ouvert à un recul de l'âge ne veut pas d'une réforme rustine faite à la va-vite. Ça doit être un débat de la présidentielle. Le leader de Force ouvrière, tout à l'heure, en arrivant, avait du mal à croire à des annonces pendant cette réunion. Ce rendez-vous, c'est celui du dialogue, de l'écoute. Tous ont redit leur position. Les syndicats promettent même de relancer une mobilisation si une réforme était annoncée au cœur de l'été. Emmanuel Macron passa-t-il outre le refus de tous ? On attend la sortie des participants pour en savoir un peu plus.
Hélène Filly en direct de l'Élysée pour France Inter avec Jérémy Tuile. Le taux de réussite avait été de 95% l'année dernière au bac. Il est vrai que c'était une saison plus que particulière. C'était 88% de réussite en 2019. Cette saison-ci non plus n'a pas été normale entre Covid encore et nouveautés. 715 000 candidats, l'année de terminale en partie à distance, les épreuves de spécialisation en contrôle continu, la philo avec moins d'enjeux que d'habitude et la nouveauté du grand oral, ça fait beaucoup. Alors bilan, c'est le jour des résultats. Bonjour Sonia Princé.
Bonjour.
Vous les avez suivis ce matin au lycée Voltaire à Paris, ces résultats.
Oui, je suis sûre que ça vous a manqué Bruno, puisqu'on n'y avait pas eu droit l'an dernier.
Ouais.
Voilà, les cris sont toujours aussi stridents, ça ne change pas. Et la joie se lit sur les visages.
On l'a eu.
Ouais, on l'a eu, trop bien.
Ça fait plaisir. Bah, on attend ça depuis le début de notre scolarité. Et on l'a enfin vécu, donc ça fait plaisir.
J'ai, j'ai beaucoup stressé pour l'oral, mais en fin de compte, il n'y avait pas besoin de stresser. Et le contrôle continu m'a aussi beaucoup aidé, du coup, franchement, ça va. C'était un peu bizarre, un peu compliqué au début de l'année, on ne pensait pas que ça allait le faire.
Avec le Covid, les masques, les profs qui étaient presque jamais là, c'était pas facile, mais il faut s'accrocher après.
Alors vous le disiez, l'année a été très particulière pour ces bacheliers qui ont été évalués en grande partie par le contrôle continu. Et Myriam n'était pas surprise de ces résultats.
Je m'y attendais. Oui, on connaît déjà toutes nos notes, donc à part l'oral et philo, mais oui, on s'y attendait. Hein. Je crois que c'est pas la même sensation que pour les autres années où ils savaient vraiment pas. Là, on sait déjà, donc. Mais au moins là, c'est confirmé. Au moins, c'est ça.
Mais il y a eu encore quelques bugs informatiques ce matin et les élèves n'avaient pas accès à leurs notes.
Moi je pense au rattrapage, sauf que j'ai besoin de mon relevé de notes et sauf que le site Cyclade ne marche pas, donc je ne peux pas y avoir accès.
Alors finalement le lycée a pu les obtenir vers midi pour que les élèves comme Joseph, qui passent le rattrapage à partir de demain, puissent choisir leur matière.
Et ce soir, la fin de l'année scolaire et les prix à la pompe ne vont pas baisser à l'heure des départs en vacances. Hier, les membres de l'OPEP n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur une augmentation de la production pour faire baisser les prix. Le baril de pétrole est autour de 77 euros. C'est du jamais vu depuis novembre 2014 pour la référence américaine. Y aura-t-il un ou plusieurs candidats de droite à la présidentielle? Comment éviter la dispersion des voix et le risque de défaite au premier tour qui accompagne cette dispersion? Bureau politique chez les Républicains aujourd'hui. Le parti essaie d'avancer sur ce dossier, ce n'est pas une mince affaire. Ce que propose la direction pour l'instant, c'est un vaste sondage. 15 000 personnes pour dégager un nom. Le mieux placé actuellement dans les sondages, c'est Xavier Bertrand. Intention de vote 18% selon l'Institut IFOP hier dans le Figaro. 24 pour Emmanuel Macron, 26 pour Marine Le Pen. Mais trois de ses adversaires potentiels s'élèvent ce matin dans le même journal contre le choix du candidat de la droite via un sondage. Ils appellent à s'en remettre au système le plus clair et démocratique selon eux, une primaire. Signataire de cette tribune intitulée « Nous en remettre au peuple plutôt qu'aux sondeurs et commentateurs », Valérie Pécresse, Bruno Retailleau, Laurent Wauquiez et le centriste Hervé Morin. Alors on peut lire cette tribune comme une offensive anti-Bertrand. Quelle réponse du côté du président des Hauts-de-France qui refuse depuis le début de participer à une primaire, Élodie Forêt?
Xavier Bertrand rêve toujours de tuer le match à droite. Le patron des Hauts-de-France reste donc pour le moment sur la même position. Il ne participera pas à un quelconque système de départage. Depuis hier, ses soutiens sont donc chargés de faire front face à Laurent Wauquiez, Valérie Pécresse et Bruno Retailleau. La primaire, c'est la prime à la division, écrit sur Twitter le député du Pas-de-Calais Pierre-Henri Dumont. Dans Le Parisien, Guillaume Pelletier, actuel numéro 2 des LR mais bientôt limogé, renchérit. On ne peut plus se permettre de perdre 5 mois de primaire et de division. Les proches de Xavier Bertrand qui, hors micro, l'admettent, oui, c'est un écueil de plus à gérer, mais rien qui ne chamboule l'agenda du candidat. Cet été, il enverra des cartes postales à la rencontre des Français. S'obstiner contre la primaire, quitte à passer pour le diviseur, la division vient d'eux, répond du tac au tac le camp Bertrand. Un proche sourit. Lors des régionales, on a tenu tête face à 5 ministres qui voulaient nous forcer à négocier. Le rapport de force, on connaît.
À gauche, la présidente réélue d'Occitanie, Carole Delga, est contre une primaire à gauche, dont on a vu, selon elle, les effets désastreux en 2017. Elle plaide pour l'option du candidat naturel. Son choix va à Anne Hidalgo. Carole Delga qui a ses mots à propos de Jean-Luc Mélenchon. Il est un obstacle à l'union de la gauche et la conquête du
pouvoir. Ce fut longtemps l'une des limites de l'économie française, son incapacité à faire émerger des licornes. Ces entreprises évaluées à 1 milliard d'euros dans le domaine des nouvelles technologies, elles sont en train de changer. Il y a désormais une quinzaine de licornes françaises environ. Et une nouvelle depuis hier. Bonjour Laurent Kramer.
Bonjour.
Elle s'appelle Mano Mano, site d'achat d'articles de bricolage et de jardinage qui vient de récolter plus de 350 millions de dollars.
Oui, c'est une réussite européenne d'une petite start-up française créée il y a à peine quelques années, en 2012. Aujourd'hui donc tout en haut du classement français, à la deuxième place avec cette nouvelle levée de fonds. Ce site de vente en ligne est désormais valorisé à 2,6 milliards de dollars. Là où ses congénères, si je puis dire, les licornes Doctolib, Deezer ou OVH, ont elles aussi de jolies couleurs, mais dépassent tout juste le milliard de dollars. Alors pourquoi cette folie autour d'un site de bricolage, d'articles de bricolage? La pandémie a généré un engouement international sur le secteur du bricolage, se réjouissent les fondateurs de la plateforme. Mano Mano est ce qu'on appelle une place de marché avec un catalogue de 10 millions d'articles en ligne disponibles en Espagne, en Italie, au Royaume-Uni, en Allemagne. La plateforme dispose d'entrepôts logistiques mais ne vend pas toujours directement ses articles et se rémunère par une commission sur les ventes réalisées en ligne. Avec cette nouvelle levée de fonds, les fondateurs annoncent 1000 recrutements d'ici 2022.
Cédric Jubilard sera-t-il remis en liberté? La demande de ses avocats est examinée aujourd'hui à Toulouse. Sa femme, Delphine Jubilard, a disparu depuis décembre dernier de Cagnac-les-Mines dans le Tarn. Le 18 juin, il a été mis en examen pour homicide volontaire et placé en détention provisoire. Il nie avoir tué sa femme. Delphine Gotcho, la décision sur une éventuelle remise en liberté se prend en ce moment même. Quels sont les arguments de la défense face à l'accusation, Delphine?
Dans le box, encadré par deux policiers, Cédric Jubilard, visage masqué, crâne rasé, chemise blanche, il a le regard fixé intensément sur ses trois avocats qui plaident à tour de rôle. Comment peut-on aller si loin avec si peu, attaque Emmanuel Franck. Ce matin, poursuit l'avocate, je pensais à cette phrase, une erreur judiciaire est toujours un chef-d'œuvre de cohérence. Ce dossier ne nous fait même pas cet honneur, ironise-t-elle. Dans cette affaire, poursuit son associé Alexandre Martin, il n'y a pas de scène de crime, pas de traces de sang, pas de traces de corps transportés. On a évité tout le monde, seul le pénaliste toulousain, mis une balise sous la voiture de Cédric Jubilard, perquisitionné partout et on n'a absolument rien. On n'a pas réussi à réunir des preuves pénales irréfutables, enchaîne Jean-Baptiste Allary, l'avocat historique de Cédric Jubilard. Alors on nous fait la preuve par la négative, on n'a rien trouvé d'autre alors. C'est lui, mais que fait-on de la présomption d'innocence? L'un des avocats des parties civiles se lève sous le regard de Sébastien, l'un des deux frères de Delphine Jubilard. Nous avons découvert les mots de Cédric à sa mère. Je vais la tuer, je vais l'enterrer et on ne la retrouvera pas. Le frère de Delphine a acquis la conviction, explique Maître Forget, que Cédric n'a pas tout dit. Moi, j'ai rien à déclarer. Dit seulement Cédric Jubilard à l'issue de l'audience. Il sera fixé sur sa demande de remise en liberté jeudi à 11h30.
Delphine Gotcho en direct de Toulouse pour France Inter. Cette histoire à présent a un peu plus de 15 jours des Jeux Olympiques de Tokyo. La Française spécialiste du saut à la perche, Ninon Guillon-Romarin, est qualifiée pour ces Jeux. Elle a accompli les performances nécessaires en 2019. Depuis, elle a eu un bébé, c'était il y a 6 mois, et désormais la Fédération d'athlétisme refuse de la sélectionner, Jean-Pierre Blimeau.
Oui, alors que Ninon Guillon-Romarin se fait discrète ce matin, c'est son club qui monte au créneau dans un communiqué. L'entente de l'agglomération Cergy-Pontoise Athlétisme fustige la fédération qui veut la punir pour son choix d'avoir voulu être mère. Des mots très durs à la hauteur de la déception de cette perchiste de 26 ans qui a tout fait, vous l'avez dit, pour revenir à son meilleur niveau, celui qui lui avait permis en 2019 de sauter à 4,70 m, largement ce qu'il fallait pour prétendre au jeu. La fédération assume et explique, là encore dans un communiqué, que la décision a été prise au regard de l'état des performances des dernières compétitions. Sauf que, selon son club, la fédération lui avait assuré qu'elle participerait au jeu et même qu'elle pouvait aller au bout de son projet. Contacter la perchiste n'a pas souhaité s'exprimer ce matin, mais son compagnon nous a tout de même précisé qu'elle ne cherchait pas d'excuses avec cette maternité, mais qu'elle ne comprenait pas au nom de quoi la fédération refusait de l'envoyer au jeu. Tout cela à l'heure où des mesures inédites ont été prises pour aider les femmes à concilier maternité et sport de haut niveau. Et justement, au JO de Tokyo, l'organisation vient d'autoriser les jeunes mamans qui allaitent à être accompagnées de leur bébé.
L'actualité du sport, ce sont les coureurs du Tour de France qui quittent les Alpes après une étape de repos hier, 190 km aujourd'hui entre Albertville et Valence. Le 20 vainqueur du Tour de l'an dernier, Tadej Pogacar, est en jaune. Premier français, Guillaume Martin, 9e à 7 minutes. Et puis en football, première demi-finale de l'Euro, Italie-Espagne à 21h à Wembley. Demain, Angleterre-Danemark. Une comédie musicale pour tourner la page des mois de Covid. Le Festival de Cannes s'ouvre ce soir enfin avec le film de Léos Carax en compétition pour la Palme d'Or. Il s'appelle Annette, histoire jouée par Marion Cotillard et Adam Driver d'un comédien et d'une cantatrice, vie bouleversée par une naissance très particulière dans le couple. Après l'annulation de l'édition 2020 du festival, le revoilà donc à une date inhabituelle, mais avec sa traditionnelle cérémonie d'ouverture, sa montée des marches, son tapis rouge. Les photographes amateurs et les festivaliers ne boudent pas leur plaisir. Yann Gallic, il y a déjà du monde au pied des marches.
C'est une image que l'on n'avait pas vue depuis 2 ans. Le tapis rouge a été déroulé ce matin sur les marches du Palais des Festivals. Dernier préparatif sous le regard des vacanciers qui se pressent derrière les barrières pour prendre des photos avec leur smartphone.
Nous sommes à Cap Estérel et on en a profité pour venir au Festival de Cannes parce que ma fille est en classe cinéma. On est super contents, surtout après cette période de Covid, là, ça fait beaucoup de bien. On a même pu voir Spike Lee, le président du jury, qui nous a ouvert sa vitre, très gentil.
Il était dans sa voiture ?
Ouais, dans sa voiture, ouais. Donc Adora, ouais, très bien, très très bien.
C'est une première pour nous.
C'est la première fois que vous venez à Cannes ?
Oui, oui. Ça fait du bien de retrouver les cinémas et de voir ce festival avoir lieu.
Après une année blanche à cause de la pandémie, la Croisette retrouve enfin une certaine effervescence, une excitation palpable, en particulier chez les cinéphiles, comme Anaë et Lola, étudiantes en cinéma.
C'est génial, du cinéma, des gens sans masque en plus. Et puis oui, toutes ces caméras, le tapis rouge, c'est génial en fait. J'ai l'impression de revivre en fait. Je sais qu'il y a Marion Cotillard, du coup je suis trop contente.
Ça c'est trop bien.
Elle va monter les marches ce soir ?
Oui, ce soir, ouais. Faut qu'on y soit là, on reste là, nous on bouge pas, c'est bon, on nous enlève pas d'ici.
Vous allez rester collés à la barrière ?
Ah oui, clairement.
Marion Cotillard montera les marches du palais ce soir aux côtés de l'acteur américain Adam Driver pour la projection d'Annette, une comédie musicale de Léos Carax. Ce sera le premier film de la compétition officielle.
Et ce film est-il bien ou pas ? Nouveau rendez-vous dans le 13-14. Tous les jours avant 14h, Laurent Delmas nous propose sa météo cannoise, l'ambiance et le regard critique de Laurent. Je crois savoir qu'il a beaucoup aimé cette Annette. Les vacances scolaires ce soir, on le disait tout à l'heure, sous une météo, disons, discutable. À part dans le sud, c'est assez gris et pluvieux. On voit cela en détail dans un instant. Ce n'est pas la meilleure façon de commencer les vacances au camping. Illustration à Binic, Côte d'Armor, Johan Moison, France Bleu Armorique.
Écoutez ce crépitement. Le bruit de la pluie sur le Haut-Vent de Patricia, une habituée du camping municipal de Binic.
C'est la catastrophe cette année. Hein. Il y en a marre de l'eau. Hein. C'est la première année que c'est comme ça. Quoi. On enlève le tapis, c'est de la boue en dessous.
Les sardines dans les enfants, ça va mal tellement que c'est mouillé. Il n'y a pas un marteau.
Bah c'est pratique.
Ah non,
c'est faut être positif.
Ça ne tient pas.
C'est Daniel qui vient d'arriver au camping. Je crois qu'il vous est arrivé une mésaventure.
Ah, une aventure, je me suis embourbé avec le camping-car là-bas.
Embourbé au mois de juillet quand même.
Ah oui, il faut le faire, parce qu'il paraît que ça fait 3 mois qu'ils ont de la pluie ces gens-là.
Bon, 3 mois, c'est un peu exagéré, mais c'est vrai que si on regarde les statistiques de Météo Bretagne, on s'aperçoit qu'en juin, par exemple, il a plu 2 fois plus que d'habitude à Saint-Brieuc, qui est situé à une dizaine de kilomètres de Binic, et le soleil a brillé 171 heures au lieu de 199 habituellement. Jacqueline espère qu'il sera plus généreux dans les jours à venir.
Le petit-fils qui arrive demain soir, il va avoir 9 ans, mais s'il fait ce temps-là, ça va pas être parent, il va falloir l'occuper.
Comment vous allez l'occuper ?
Oh, il va apporter des jeux de société, de toute façon. Jouer avec papy et mamie. Mais autrement, on pense aller à la plage.
Pourquoi pas ? La température de l'eau avoisine les 16 degrés en ce moment ici à Binic. Ça permet d'amoindrir le risque de choc thermique.
Et à propos de pluie, il y en a en particulier dans le Rhône et l'Ain. On voit cela tout de suite.
La météo, avec Pavillon France, la marque de la pêche française. Rendez-vous sur pavillonfrance.fr. Pavillon France, le jour de pêche est arrivé.
Bonjour Élodie Calac.
Bonjour à tous.
Rhônéen en vigilance orange, Élodie.
Exactement, pour des pluies parfois intenses. Alors des Cévennes et de l'Auvergne vers les Alpes, le nord-est s'est vraiment perturbé aujourd'hui avec des pluies soutenues, parfois fortes et orageuses, en particulier sur le nord de Rhône-Alpes. Donc soyez prudents. En allant vers le sud-ouest, là les pluies sont plus faibles. Sur le nord-ouest jusqu'à l'Île-de-France et au nord de la Seine, c'est un ciel de traîne qui s'installe avec toujours du vent, jusqu'à 60 km à l'heure dans les terres, 80 à 90 sur les côtes de la Manche. On a des averses parfois accompagnées d'orages. Quelques éclaircies appréciables entre les deux. Un peu plus d'éclaircies du nord de la Nouvelle-Aquitaine vers le centre Val-de-Loire et les Ardennes. Et puis un beau soleil pour la Provence, la Côte d'Azur et la Corse. Avec des températures assez fraîches. 18 degrés seulement à Brest, à Lyon, 20 degrés à Lille et à Strasbourg, 22 à Paris ou à Bordeaux. Et tout de même 32 degrés pour Ajaccio.
Merci Élodie Calac, Météo France. Dans un instant, avec le professeur Alain Fischer et avec Daniel Nizri, le président par intérim de la Ligue contre le cancer, et avec vos messages, hommage à Axel Kahn.
Et après 50 ans, on n'est plus libre.
Ah oui, on peut faire ce qui nous plaît, aller au musée, voyager, même s'épuiser sur la piste de danse.
Je sais pas danser, moi.
Et alors ? C'est pas ça qui va nous en empêcher.
Vous aussi, rencontrez des célibataires qui partagent vos centres d'intérêt sur Disons Demain. Lily, ça vaut une petite pépite française. Vous voyez de quoi je parle ? Non, c'est pas du gâteau. Je parle de son lit. Fabriqué en France, comme 78% des produits Camif. Craquez pour un lit enfant sur camif.fr. Camif, changeons le monde de l'intérieur.
France Inter aime
Annette, le nouveau film de Léos Carax, en compétition officielle au Festival de Cannes, avec Adam Driver et Marion Cotillard. We love each other so. Une histoire d'amour fou, magnifique, cruelle, sombre et lumineuse. We love each other so much. Annette de Léos Carax. D'après une idée originale et une musique de Sparks, le 6 juillet au cinéma, un film France Inter.
Il est 13h30.
France Inter. Le 13-14. Bruno Duvic.
Les mois que nous venons de vivre nous ont appris à mesurer l'importance de la parole publique des médecins. Axel Kahn était de ces scientifiques qui interviennent dans le débat public, et cela bien avant la crise du Covid. Le généticien né en 1944 en Touraine, qui présidait depuis 2 ans la Ligue contre le cancer, vient d'être emporté par la maladie à 76 ans. Il laisse derrière lui des dizaines d'articles scientifiques en tant que généticien, autant d'interventions médiatiques, des essais sur la science, la philosophie, la marche, sa passion. Et ces dernières semaines, il parlait très directement dans les médias de sa maladie et de ces quelques jours qui lui restaient à vivre. Quel souvenir gardez-vous d'Axel Kahn ? Le standard vous est ouvert, si vous le souhaitez, 01 45 24 7000 et l'appli France Inter, rubrique Réagir, pour dialoguer avec nos invités, avec d'emblée ce premier message de Nicole, qui est professeure de sciences. Elle dit qu'Axel Kahn a balisé toute sa carrière. C'était quelqu'un de très lumineux, grande personnalité, généreux, une grande figure pour moi. Bonjour Alain Fischer.
Bonjour.
Pédiatre, professeur d'immunologie, aujourd'hui président du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale. Vous connaissiez bien Axel Kahn. Quel souvenir gardez-vous de lui, Alain Fischer ?
Oui, alors au-delà de l'émotion, bien sûr, aujourd'hui, j'ai beaucoup de souvenirs d'Axel, qui était un collègue et un ami. Nous avons travaillé longtemps dans la même université. D'ailleurs, il a été à un moment président de notre université. Il a joué un rôle important, et je me souviens de cela, dans le développement d'un institut de recherche qui est situé à l'hôpital Cochin, qui existe toujours, qui s'appelle l'Institut Cochin. Mais évidemment, ce qui marque le plus dans toute l'œuvre et à travers la personnalité d'Axel Kahn, c'est le fait qu'il s'est engagé avec conviction, talent et enthousiasme, dynamisme, je dirais aussi, pour expliquer la science, favoriser la culture scientifique, faire en sorte que nos concitoyens comprennent l'importance de la science, et on voit bien aujourd'hui à quel point cela est crucial. Donc il a été un des plus beaux porte-parole de la parole scientifique auprès de nos concitoyens au cours de ces années, je dirais de ces dizaines d'années. C'est une œuvre absolument remarquable d'un très grand pédagogue.
De ces médecins qui font la jonction, au fond, entre la science et la société.
Tout à fait, tout à fait. Il l'a fait en expliquant les données parfois complexes de la science. Il savait très bien les mettre en valeur de façon claire, et évidemment en mettant en avant les questions éthiques. Il a beaucoup réfléchi sur un grand nombre de questions éthiques soulevées par les avancées scientifiques, et pas, il les a pas soulevées d'un point de vue au sens propre réactionnaire, mais en soulevant les points et en réfléchissant aux solutions, aux avancées qui pouvaient être faites grâce à la science, aux choses peut-être qu'il ne fallait pas faire, en tous les cas pas pour l'instant. Donc il a aussi contribué à la réflexion sociétale, éthique, sur qu'est-ce que l'on fait des progrès scientifiques.
Vous avez des souvenirs de débats très précis de ce point de vue, de questions éthiques ?
Oui, je peux en évoquer une. D'ailleurs, on n'était pas d'accord, mais ça, c'est le propre des discussions scientifiques et éthiques. C'est un sujet aujourd'hui un peu révolu, mais c'est ce qu'on a appelé, d'un mot assez mauvais, à vrai dire, le clonage thérapeutique, qui est un débat qui est apparu quand il advenait qu'à partir de cellules embryonnaires, on pouvait reconstituer des éléments de développement embryonnaire, et il n'y était pas favorable, avec des raisons de prudence qui s'entendaient tout à fait, et c'était un débat vif mais courtois et surtout intelligent, ouvert. C'était ça le plus important.
François au standard de France Inter, bonjour François.
Oui, bonjour monsieur.
Je vois sur ma petite fiche que vous êtes universitaire à la retraite.
Oui, et j'ai partagé la campagne de 2012 dans le 5e arrondissement avec Axel Kahn. Donc c'est une autre facette de sa vie et de ses talents. Ces talents dont tout le monde parle à juste titre, au service d'une ambition, pour ce qu'il appelait l'humanisme, et que nous avons justement vécu dans la fraternité pendant cette campagne. Je le revois grimpant sur un garde-corps, place de la Contrescarpe, muni d'un porte-voix, et haranguant les consommateurs aux terrasses des cafés. Et par ailleurs, j'ai été très très ému par son dernier entretien avec Léa Salamé, qui faisait suite à un entretien qu'il nous avait accordé d'ailleurs aux socialistes du 5e arrondissement. Par eux, j'ai été saisi, traversé, partagé par ce sentiment de l'honneur. C'était l'honneur de l'homme face à la mort qui nous parlait à travers sa voix. Et ça, c'est quelque chose qui m'avait énormément touché parce que je le partage très profondément.
Merci François pour ce témoignage. Campagne engagée à gauche, hein, vous l'avez rappelé, c'était face à François Fillon, faut-il le rappeler, à Paris. On reviendra là-dessus dans un instant avec le président par intérim de la Ligue contre le cancer. Alain Fischer, un mot du Axel Kahn, généticien, des dizaines d'articles scientifiques qu'il laisse derrière lui. Qu'a-t-il apporté? Ça a été un des pionniers de la thérapie génique en France, est-ce qu'on peut le dire comme ça?
Bon, il a travaillé dans ce domaine. Je dirais pas que c'est son œuvre principale.
Oui.
Je pense qu'il a fait d'importantes contributions à la compréhension des mécanismes génétiques de diverses maladies. Il a identifié avec son équipe un élément important du métabolisme du fer à travers une protéine qui s'appelle l'hepcidine. Et donc, il a eu plusieurs contributions, je dirais, tournées autour de la compréhension des grands mécanismes de différentes maladies métaboliques, essentiellement d'origine génétique. Là, c'est là que sa contribution, à mon avis, a été la plus fructueuse et restera et marquera, bien sûr.
Est-ce que vous pouviez avoir des réticences à l'égard de certaines de ses interventions médiatiques? Alors, cette façon de parler très directement de sa maladie ces dernières semaines, et puis le côté, on le dit avec affection, un peu cabot que pouvait avoir Axel Kahn.
Oui, oui. Bon, je pense que son désir et son souhait de parler de sa maladie en public doit être éminemment respecté. Je pense d'ailleurs probablement que sa parole a aidé des malades qui sont dans sa situation, ou étaient dans sa situation, proche de sa situation. Oui. Et donc, il n'y a juste rien à dire et respecter ce souhait. C'est bien évident. Ensuite, le personnage, on le connaît, assez extravagant, extraverti, mais ça va de pair avec tout ce qu'il a apporté dans son dynamisme et cette façon, ce charisme, on peut dire, d'emporter des convictions et encore une fois, à l'interface si importante entre la science et notre société. Et on le voit encore aujourd'hui à quel point il est important que nos concitoyens comprennent les enjeux sociétaux à travers l'analyse scientifique. Et il a vraiment été un des grands acteurs de cela.
Restez encore quelques instants avec nous, Alain Fischer. Je sais que vous devez nous quitter. Je voudrais saluer Daniel Nizri. Bonjour, monsieur Nizri.
Bonjour.
Président par intérim de la Ligue contre le cancer. Commençons par là, ce que disait à l'instant Alain Fischer, cette façon très directe de parler de sa maladie dans les médias qu'a eu Axel Kahn. Comment l'avez-vous vécu, vous, à la Ligue contre le cancer? Est-ce que vous avez eu des messages de malades disant « ça m'aide » ?
Ben, naturellement. Nous avons eu de nombreux témoignages. La parole d'Axel avait une grande importance parce que, comme vos deux précédents interlocuteurs l'ont rappelé, il avait non seulement des valeurs, mais un engagement. Mais souvent, ces engagements ne sont pas suivis d'actes. Oui. Et là, son engagement auprès de la population, auprès des personnes malades, avec ce souci d'un chercheur, d'un enseignant, d'expérimenter puis de transmettre sa réflexion, était vraiment au premier plan, et il me l'a rappelé régulièrement dans tous les échanges qu'on a continué à avoir jusqu'à très récemment.
Et Daniel Nizri, on parle dans un instant de tout ce qu'il a apporté à la Ligue contre le cancer. Alain Fischer, dernière question. Axel Kahn citait souvent cette phrase de son père qui lui avait dit « Sois raisonnable et humain ». Je me dis que c'est une merveilleuse définition du métier de médecin, qu'en dites-vous ?
Oui, du métier de médecin et qui cherche et qui réfléchit sur son métier, ce que typiquement Axel Kahn a fait tout au long de sa carrière. Je pense que cela a dû l'inspirer beaucoup tout au long de sa vie professionnelle, mais pas uniquement. Et c'est une maxime assez belle et très raisonnable qu'on ne peut que suivre et faire sienne.
Merci Alain Fischer d'avoir pris quelques minutes pour répondre aux questions de France Inter. Je voudrais qu'on retourne au standard pour entendre Colette. Bonjour Colette.
Oui, bonjour.
Axel Kahn était né en 44 en Touraine et vous habitez son village de naissance, c'est bien ça?
Oui, c'est un message du petit Précigny, son village de naissance. Et je voudrais dire un très très grand merci à la superbe leçon de vie qu'il nous a offerte lors de l'émission de la Grande Librairie. Mmh. J'insiste beaucoup, la beauté, la bonté, la dignité nous permettent ces trois grands piliers d'un chemin de vie, trois forces qui peuvent nous permettre d'être raisonnables et humains. Actuellement, aujourd'hui, le petit Précigny est en deuil. Et l'émotion et la tristesse envahissent tous les habitants.
Merci.
Axel, vous êtes un chic-type.
Merci. Merci Colette d'avoir pris ce temps pour rendre hommage à Axel Kahn et au petit Précigny en Touraine. Encore un témoignage au standard de France Inter. Bonjour Jérôme.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous avez accompagné votre épouse qui a disparu il y a 5 ans, c'est ça?
Effectivement. Ouais. Effectivement, à l'âge de 43 ans, après 10 années de combat inégal avec une tumeur cérébrale, elle a dû se résigner à faire le choix de dire « je veux partir ». Tranquillement, sereinement, dignement. Pourtant, elle avait mes trois enfants qui étaient en bas âge. C'était la prunelle de ses yeux. Et j'ai été pas surpris, mais vraiment aujourd'hui, avec du recul et le témoignage de M. Kahn, je me rends compte qu'on peut vraiment dégager une force de caractère, un courage et une dignité pour dire je vais vous laisser là et je vais finir mon morceau de vie. Et comme certains auditeurs l'ont déjà dit, je pense qu'on n'en parle pas assez parce que c'est un sujet qui reste tabou. Et Dieu sait que quand on est au pied du mur, à un moment donné, alors que ce soit pour la personne qui part, mais même pour ceux qui restent,
bien sûr.
Et là je pense qu'il y aurait un grand débat encore, mais surtout pour ceux qui restent, on est toujours impressionné de la sérénité qui dégage ces personnes et du courage. Alors je sais pas, c'est peut-être pas le bon mot d'ailleurs, le courage, mais voilà, moi je suis toujours admiratif. Et puis là j'espère que le départ de M. Kahn aussi, de ce grand homme, permettra de remettre un peu sur le devant de la scène ces sujets-là de mort, d'accompagnement, et puis voilà, quand il n'y a plus de solution, de voir quelles sont les autres solutions palliatives qui permettraient aux personnes de
les accompagner dans les derniers moments.
Exactement.
Merci Jérôme pour ce témoignage. Daniel Nizri, président par intérim de la Ligue contre le cancer, qu'a-t-il apporté à la Ligue depuis 2019, Axel Kahn?
Énormément. Axel Kahn est venu s'engager à la Ligue pour servir la Ligue et pas pour se servir. Il n'avait pas besoin de la Ligue pour être connu et reconnu. Plusieurs personnes avant moi ont évoqué son engagement antérieur au niveau de l'enseignement, de la recherche scientifique, de l'engagement politique. En fait, il nous a apporté sa notoriété, il nous a ainsi aidé à porter des messages que la Ligue porte depuis de nombreuses années, mais sa capacité à médiatiser ses combats, à les reformuler, a été un apport très important, y compris pendant la crise que nous traversons.
Absolument, oui, il avait insisté sur ces rendez-vous qui se décalent et les pertes de pronostics à cause de cela. Ce message sur l'application de France Inter, je me souviens de son coup de gueule au mois de janvier 2021 sur France Inter en s'adressant aux dirigeants français et leur disant « qu'est-ce que vous attendez pour accélérer la vaccination ?» Le résumé de son intervention, c'était très fort. Honnêtement, Daniel Nizri, ça devait pas être facile tous les jours de travailler avec Axel Kahn, c'était un caractère.
Absolument, c'était un caractère, mais c'est ce qu'on attend de quelqu'un qui anime une association aussi importante que la Ligue. Ouais. Je rappelle quand même que nous avons 800 000 donateurs, 600 000 adhérents, de très très nombreux bénévoles et élus au service de la population sur le terrain et pour qu'il y ait un message clair, à la fois pour ceux qui ont besoin de nous, mais également pour nos partenaires, qu'ils soient au niveau des autres associations ou des institutions, il faut une parole. Et d'ailleurs, à ce niveau, si je peux me permettre, au-delà de l'émotion que toute la Ligue et moi-même, parce que depuis 2 ans, nous étions très proches, et en fait, pour dire les choses simplement, aujourd'hui je perds un ami, hein, il a mis sur un certain nombre de sujets la barre tellement haut que une fois l'émotion passée, il va falloir réfléchir à comment on reste digne de ce qu'il nous a apporté et de ce qu'il souhaitait faire s'il en avait eu le temps.
Alors, je voudrais qu'on termine, Monsieur Nizri, sur une note d'optimisme. Il se trouve qu'aujourd'hui même, l'INCa, l'Institut National du Cancer, publie une étude très détaillée sur des diagnostics de 1989 à 2015 et qui nous dit que votre travail à vous, la Ligue, celui des chercheurs, celui des médecins, ben, ce travail paye. On survit de plus en plus au cancer et à beaucoup de cancers.
Oui, naturellement. Alors, premièrement, c'est un combat auquel la Ligue participe depuis de nombreuses années, puisque je me permets de rappeler que les différents plans cancer, la Ligue en est un peu à l'origine au travers de la réunion des états généraux des patients en 1998, qu'en plus elle a été très souvent pilote ou copilote d'un certain nombre d'actions de ces différents plans, et qu'enfin elle a, par le portage qu'elle fait des différents projets de recherche, hein, la Ligue, je le rappelle, est le premier financeur privé de la recherche en France, et c'est à la fois son honneur, son obligation, c'est la volonté de ceux qui nous soutiennent, et donc nous allons continuer ce combat.
Merci beaucoup Daniel Nizri d'avoir été à l'antenne de France Inter pour rendre hommage à Axel Kahn, pédagogue et humain sur des sujets parfois ô combien difficiles, nous dit Spiro. Une lumière s'éteint, je suis sûr qu'il en a allumé beaucoup d'autres. Merci à tous et merci à Sarah Guibaudot, Stéphanie Boutonna, Estelle Schmitt qui m'ont permis et Véronique Julia qui nous ont permis de monter très rapidement cet hommage à Axel Kahn.
France Inter. Le 13-14.
À suivre dans le 13-14, un nouveau rendez-vous, le temps du Festival de Cannes. Chaque jour, la météo cannoise de Laurent Delmas. Bonjour, monsieur Laurent.
Bonjour, monsieur Bruno.
Un plaisir de vous accueillir dans le 13-14. Bientôt le film et la cérémonie d'ouverture. Quelle est la météo cannoise aujourd'hui ?
Elle est universelle en ce jour d'ouverture du festival parce qu'on peut tous être festivaliers. Annette, le nouveau film de Léos Carax, grimpe le tapis rouge, mais envahit tout autant les salles de cinéma dans la France entière dès 19h.
À tout à l'heure, Cannes et Avignon, notre feuilleton avec la troupe d'Olivier Py. Et tout de suite, c'est une chanson. Bonjour Frédéric Pommier.
Bonjour Bruno.
En cette dernière journée d'école, vous avez demandé à Benabar de vous parler d'une chanson qui lui tient à cœur.
Benabar, dont le dernier album, Indocile Heureux, est sorti cet hiver. Et c'est d'une chanson de 1991 qu'il a choisi de me parler, Tous les mômes de Kent, le premier titre de son disque Tous les hommes.
Je voulais rendre hommage à Kent, qui est un chanteur que j'adore, que j'ai beaucoup écouté, qui est très négligé. Je trouve qu'il y a une forme d'injustice. Plein de gens ne connaissent pas ses chansons. D'ailleurs, il continue à faire des chansons, Kent, en l'occurrence. Je me souviens avoir été le voir à un concert à côté de la Bastille, à l'époque, dans une autre vie, avec une autre copine de l'époque. On l'écoutait tout le temps. Moi, j'accorde beaucoup d'importance au lexique des chanteurs. Il y a des aspérités dans les mots qu'il emploie qui sont très inattendues et je trouve que ça donne une singularité à son écriture. Il m'a beaucoup inspiré, Kent. Et ça, c'est la première fois, d'ailleurs, je le confie, je pense.
Il vous a inspiré de quelle manière ?
Ben, je pense qu'il m'a permis de devenir chanteur. En incarnant ce côté-là que j'ai moi aussi, qu'avait Kent à l'époque, de mec normal qui chante. On chante comme on serait garagiste. Et Kent a une voix, un univers, des chansons très personnelles, et puis qui racontent quelque chose. C'est peut-être aussi pour ça qu'elles passent pas à la radio, parce que ce sont des chansons qui sont lourdes de sens. Et aujourd'hui, on a tendance un peu à mettre en exergue les chansons qui sont légères de sens.
Tous les mômes veulent devenir des hommes. La cigarette au lieu du bubble gum. Avoir une auto et mettre la gomme. Être un champion à tous les critériums. Tous les mômes veulent devenir des hommes. Ils nous voient toujours plus beaux que nous sommes. Ils ne se contentent pas du minimum. Vivre et aimer toujours au maximum. Tous les mômes ont une belle idée des hommes. Ils savent nous faire oublier ce que nous sommes. Si on sait redevenir haut comme trois pommes, chacun de nous pourrait être au sommet.
tous les hommes. Elle a donc déjà 30 ans, cette chanson, Frédéric.
Tous les mômes. Et quel est 64 ans. Et Benabar, lui, 52, même s'il a toujours l'air d'un môme. Quant à cette chanson, elle ne vieillira probablement jamais.
Tous les mômes parlent un peu d'un point de vue d'adulte, avec cette dimension de regret qu'on a sur l'enfance, et puis du fait que quand on est enfant, on a une vision des adultes, et quand on est adulte, ça n'a rien à voir avec ce qu'on imaginait, et qu'on n'est jamais tout à fait grand, en fait. On est tous des anciens enfants. Même s'il faut mentir aux gosses, et continuer à mentir aux gosses pour leur faire croire qu'on les protège et qu'on assure, alors que c'est pas du tout vrai.
Mais là, j'ai le temps, racole les petits mots. Au fil du temps, ça donne les petits hommes au décor.
Vous étiez quel genre d'enfant ?
Assez discret, angoissé. C'était une période pas très heureuse, je crois. Moi, j'ai pas ce sentiment de paradis perdu, moi, du tout. C'est pas quelque chose que je regrette, mon enfance. Je regrette celle de mes gosses, évidemment, mais la mienne, pas du tout. Des fois, on parle de l'enfance comme une période d'insouciance. Je pense que c'est une immense erreur. Les enfants sont pas du tout insouciants, sont très préoccupés par plein de trucs. Ils ont des cauchemars, ils s'inquiètent. Comment ils vont être vus, leur papa, leur maman, leur petit copain à l'école. Quelqu'un a décrété stupidement une fois que l'enfance était insouciante. C'est pas du tout vrai, il n'y a aucun enfant qui est insouciant.
Tous les hommes ont une belle idée des mots. Tant pis si sous le lit y a des fantômes.
Cette chanson de Kent, c'est une chanson que vous avez fait écouter à vos enfants ?
Oui, et cette chanson et d'autres. Il y a plein de chansons de Kent qui me touchent beaucoup. Tous les mômes veulent devenir des hommes, la cigarette au lieu du bubblegum, avoir une auto et mettre la gomme, être un champion à tous les critériums. Je parlais du lexique tout à l'heure, le critérium, je trouve ça super d'employer ce terme-là. Mais là, j'ai le temps, racole les petits mômes. Au fil du temps, ça donne les petits hommes au décorum. Encore une fois, décorum, c'est une poésie simple, mais qui touche en plein cœur.
Pourtant, tu n'en veux pas du décorum.
Tous les mômes de Kent, c'était donc le choix et les confidences de Benabar, Frédéric.
Benabar, dont le dernier disque est donc sorti cet hiver, son titre Indocile Heureux.
Avant d'installer le studio du 13-14 jeudi à Avignon, notre feuilleton suit cette semaine l'un des spectacles les plus attendus du festival. Hamlet, traduit, mise en scène, décortiqué par Olivier Py et sa troupe. Chaque jour, une scène clé et comment des grands penseurs ont analysé la pièce de Shakespeare. Cette troupe mélange étudiants, comédiens amateurs et professionnels comme Céline Chéenne. Épisode 2, signé Stéphane Capron, autour de ce projet qui s'appelle Hamlet à l'impératif.
La pièce commence comme ça. Un homme entend une injonction, un impératif. La pièce commence par un impératif. Le théâtre commence par cet impératif. Le théâtre est le mode impératif de l'inquiétude.
En attendant, il y a cette question. Ces questions. Qu'est-ce que je dois faire ?
Céline Chéenne, on est ici au cœur du Festival d'Avignon, dans le centre-ville, en plein air, à quelques encablures du Palais des Papes. Il y a des oliviers. On est dans le plus grand festival de théâtre. Un an et demi après le début de la pandémie, vous, les comédiennes et les comédiens, vous retrouvez le public. Quel est votre sentiment avant d'aborder ce festival ?
Moi, je suis extrêmement reconnaissante d'être là. Et là, tout à l'heure, j'étais assise parce que j'avais un petit moment où je n'étais pas sur le plateau. Donc, je suis allée m'asseoir en tant que spectatrice pour regarder mes camarades jouer. Et j'ai croisé trois personnes du regard et j'étais émue aux larmes et je me suis dit, eh ben, ça commence bien. Ils sont trois à venir nous voir dans le jardin, je suis déjà en train de pleurer. C'est bouleversant parce que quand on fait ce qu'on fait, c'est aussi pour le partage avec les êtres. Et que quand ils sont là face à nous, eh bien, notre vie prend tout son sens.
Et cette Hamlet que l'on verra tous les jours à midi, vous parliez de partage, c'est aussi un partage entre vous, les grandes comédiennes et comédiens d'expérience, vous partagez avec la jeune génération, puisque vous partagez le plateau avec des élèves qui sortent de l'école, qui sont à l'ERAC, l'école de Cannes et l'école de Marseille. Il y a aussi cette idée de transmission.
Oui, on pourrait penser ça, mais moi, étrangement, j'ai toujours vu la jeunesse arrivant. Donc, elle est née après. Donc étrangement, c'est comme si elle avait avec elle beaucoup plus de poids que nous on a. Pour moi, les plus jeunes, étrangement, sont les plus vieux. Je sais que moi, j'apprends beaucoup, je les regarde, et que j'apprends beaucoup en les voyant faire.
On peut penser que Shakespeare, à la taverne de la sirène, a changé le point d'arrivée de toute pensée, la mort, en une question, mais qui ne resterait pas réservée à la philosophie des philosophes. Une question qui est une question de théâtre, qui est le théâtre. Une question qui est déjà en soi une réponse. Tant que j'entre en scène, il n'y a pas rien. Fromage et dessert.
C'est gratuit et Céline Chen, ce feuilleton, ça dure, si on met tout bout à bout, une dizaine d'heures, mais
oui,
peut-être
oui,
un
oui.
petit peu
un
plus.
Peu plus oui.
Et vous, ça vous fait pas peur, parce qu'avec Olivier Py, la servante,
non,
c'était plusieurs
non,
heures.
Non.
Le soulier de satin,
la
n'en
servante,
parlons pas.
La notion de temps au théâtre est très... Plus ça dure, en fait. Il y a une espèce de cohésion qui se crée avec le public. Moi, quand je faisais la servante avec Olivier, que les gens voyaient le spectacle qui se déroulait, que par moments, ils étaient dans des sacs de couchage, ils s'endormaient, ils se réveillaient, ils revenaient, ils allaient boire un café, ils revenaient. Il y avait une vraie intimité. Le partage, il est hallucinant. Et là, je pense que les gens qui vont venir voir un premier épisode et qui viendront voir un deuxième, quand ils verront le premier, ils seront tout neufs, ils vont découvrir la chose. Au dixième, ils auront déjà compris plein de choses. Ils sauront qui on est. Ils seront... Je pense que ça crée toujours quelque chose de tout à fait particulier et merveilleux, quoi. Ça, c'est sublime. C'est sublime.
Et le Festival d'Avignon, nous y serons jeudi avec le 13-14. Pour l'instant, nous allons au Festival de Cannes.
France Inter, le 13-14.
Où nous retrouverons chaque jour avant 14h, Laurent Delmas, Voix du cinéma sur France Inter. Vous êtes bien là, Laurent ?
Je suis bien là, Bruno.
Bon, je m'en réjouis. Vous allez nous proposer tout au long du festival votre météo cannoise chaque jour. Alors, mardi 6 juillet, on s'apprête à lever le rideau sur le film d'ouverture qui sort également en salle ce soir, Annette de Léos Carax avec Adam Driver et Marion Cotillard. Quelle est la couleur du ciel ?
Bah, il fait beau et chaud, Bruno, c'est vous qui m'avez suggéré d'employer ce calembour d'entrée de jeu, donc
oui.
Je vous le livre, il fait beau et chaud, je maintiens, voilà. Écoutez, on atteint ici un bon petit 27 degrés hein, jusqu'à la fin de l'après-midi, j'ai d'ailleurs failli vous faire faux bond pour aller à la plage, bien évidemment, la tentation est d'autant plus grande cette année qu'il voit le festival se dérouler exceptionnellement en plein été et non pas en mai, vous le savez, nous le vivons.
Ouais.
Du coup, dans les rues, on croise beaucoup plus de vacanciers en sandales et pareo, et des enfants boués à la main que des festivaliers dont les yeux ne sont pas encore ceux des noyés sous les flots d'images. Allez, bref, recentrons-nous sur la croisette.
Oui, s'il vous plaît, le Carax.
Le Carax. Le festival ouvre officiellement ses marches ce soir, vous le savez, oui, avec Annette, le nouveau film très attendu du franco-américain Léos Carax. Si le cinéma est d'abord fait de désir, alors Carax, avec aussi peu de films à son actif et son dieu vivant, en comptant ce nouveau-né cannois, il a réalisé 6 films en 37 ans. Qui dit moins ? Oui, mais voilà, à chaque fois, ou presque, Carax nous colle à notre siège et nous laisse tout bouleversé face au visage de Juliette Binoche dans Mauvais Sang et toute intranquille face aux fulgurances de Holly Motors, pour ne citer que cela. Depuis toujours, ces films sont musicaux, c'est-à-dire qu'ils ne relèguent jamais l'âme et la musique au rang d'utilité publique, comme on le sait quand on a vu, par exemple, Denis Lavant danser sur du Bowie dans Mauvais Sang, ou même conduire un big band d'accordéon dans une église, cette fois dans Holly Motors. Rien d'étonnant donc à ce qu'ils nous reviennent aujourd'hui avec ce qu'on appelle par facilité une comédie musicale dont le groupe Sparks est artistiquement à l'origine. Ne comptez pas sur moi, Bruno, pour vous en dire beaucoup plus, puisqu'on peut découvrir ce film dès ce soir, je le disais, dans les salles de cinéma à travers la France. Beau cadeau. Carax, une fois de plus, une fois encore, nous entraîne dans une tornade qui a dans son centre une chose finalement assez rare, et même ici, le cinéma, c'est-à-dire l'émotion à l'état brut, pure, faite de sons et d'images orchestrées, un opéra démesuré, vibrant et tragique et magique à la fois. À trop l'oublier parfois, on se contente de produits fadas. Oui, j'ai bien dit fadas. Carax réveille nos appétits et nos papilles. Le déconfinement est en marche et rien ne l'arrêtera. Annette nous dit que le spectacle doit continuer lui aussi, coûte que coûte.
Alors, on va y aller très vite, dès ce soir. Le chrono tourne vite. Laurent, il nous reste une minute. Un mot d'un documentaire qui est accessible pour tout le monde, gratuitement, sur le site du festival. Et puis, on parle musique.
Oui, exactement. Beau cadeau du festival, gratuit, en ligne. Un documentaire où vous allez croiser Chapier, Danet, Chalet, Sarri, mais aussi Bouju, France Roche et Bory, qui nous racontent sans voix off, sans commentaire, et c'est génial, toute l'histoire du festival. On y croise notamment une Françoise d'Orléac épatante et craquante à souhait.
Allez, on termine comme chaque jour, ce sera une habitude avec une bande originale, les Sparks évidemment aujourd'hui.
Oui, avec un morceau intitulé Sympathy for the Abyss, c'est chanté par Adam Driver et David McDowell, avec une évidente référence au diabolique Rolling Stones, et parfait reflet d'un film qui pourrait tout aussi bien s'intituler Connaissance des gouffres.
We don't have long. I'll sing these words to you. I hope they will ring true. They're not some magic charms to cover up my crimes. A nut of this, I'm sure. Imagination's strong, and reason's song is weak and thin. We don't have long.
Ah, tout petit extrait, c'est frustrant, c'est très bien. Donc, le Carax, ce soir, dans les salles également. À demain, Laurent Delmas.
Vivement demain.
Je compte sur vous.
Moi aussi.